Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Clap de fin pour l'A380, géant des airs conçu et produit par Airbus. La ligne de production s'arrêtera en 2021, on l'a appris dans la nuit. En principe, pas de répercussions sur l'emploi. Ça concerne quand même 3000 à 3500 postes qui pourraient être affectés dans les trois prochaines années. C'est un échec commercial. Est-ce que vous craignez la casse sociale ?
Non, pas forcément, mais c'est un échec commercial. Et puis c'est quand même un formidable avion qu'on arrête de produire. Donc ça fait forcément quelque chose. Après, le carnet de commandes d'Airbus est tel que ça doit se faire sans conséquences sur l'emploi. C'est une évidence.
C'est-à-dire
vous... c'est-à-dire
parce
qu'il y a
aujourd'hui... Parce que maintenant,
c'est
les partenaires sociaux de négocier évidemment avec la direction qui parlent de mobilité interne.
Oui, bien sûr. C'est absolument évident. Le carnet de commandes d'Airbus est assez conséquent. Il y a des commandes de plein d'autres types d'avions. Il faut que les personnes qui sont affectées à la 380 puissent bouger pour produire ces avions.
Donc vous dites qu'il n'y a aucune raison pour qu'éventuellement l'entreprise envisage des suppressions de postes. Tout ça doit se reporter sur d'autres modèles.
Ce n'est pas un problème de savoir-faire, ce n'est pas un problème de compétences industrielles, c'est un problème commercial. On peut le regretter, mais il ne faut pas que les salariés en payent les conséquences.
Par ailleurs, François Langlais en parlait un instant. Embellie sur le marché de l'emploi, moins 0,3% de chômage au quatrième trimestre 2018. Les dispositifs gouvernementaux fonctionnent ?
Je crois qu'il y a une situation économique qui s'est légèrement améliorée, même si maintenant elle commence à redevenir un peu plate, c'est-à-dire la croissance est trop faible. Donc tant mieux s'il y a, eu des effets bénéfiques sur l'emploi, on le constate dans certains secteurs industriels, dans certains secteurs professionnels, on voit bien que l'emploi est présent. Le seul problème, c'est que, ça a été dit aussi par François Langlais, il y a un marché du travail coupé en deux. Il y a d'un côté les salariés formés, qualifiés, qui trouvent de l'emploi. De l'autre côté, des personnes qui ont une grosse difficulté d'emploi et qui subissent du chômage ou de la précarité.
Avec des poches géographiques de chômage très fortes et puis des poches géographiques où, au contraire, les entreprises n'arrivent pas à embaucher.
Oui,
faute de personnel,
formation,
mobilité, tout ça c'est au cœur
du travail qu'il faut faire sur l'emploi. La formation c'est absolument nécessaire et on voit bien, on est en train de mettre en place la réforme de la formation professionnelle qui a été opérée et ça devient c'est trop lent.
Mais quand est-ce qu'on peut espérer des effets ? C'est vrai que c'est très lent.
Il y a déjà des effets. Il ne faut pas du tout négliger ce qui peut être fait dans un certain nombre de territoires, dans un certain nombre de branches professionnelles pour orienter des salariés, des jeunes vers les secteurs professionnels en tension, où il y a des créations d'emplois possibles. Et puis, il y a aussi des secteurs qui, en termes de création d'emplois ou de ressources humaines, doivent faire des efforts sur la qualité du travail, sur les types de contrats, sur, les salaires, etc.
Alors, type de contrat, parlons-en. Vous êtes prêt au bras de fer aujourd'hui avec le MEDEF ? C'est bon ?
Mais
vous avez vos munitions,
c'est une
si
négociation.
Je puis dire.
Non, mais c'est pas la guerre. C'est une négociation sociale. C'est pas la guerre du tout. Ce qui est sûr, c'est que vous savez que le patronat, il a suspendu la négociation il y a 3 semaines en disant on a besoin de temps supplémentaire. On n'est pas content avec ce qu'a dit le président de la République sur le bonus-malus. Donc on veut on suspend.
Puis ensuite, c'est la lutte contre la précarité, contre l'abus de contrat court.
C'est le fait que un certain nombre de salariés et de demandeurs d'emploi subissent des contrats courts et très courts et à répétition et n'arrivent pas à s'insérer durablement sur le marché du travail parce que dans un certain nombre de secteurs, les hôtels, cafés, restaurants, le secteur médico-social, l'organisation du travail se fait autour de contrats très courts et pas suffisamment par des contrats longs. Et donc, le patronat, il a suspendu cette négociation et il a dit « après, je reviens ». Maintenant, il faut qu'ils reviennent avec des mesures choc.
Mais vous les avez vues ? Vous avez vu les mesures du MEDEF ?
La négociation ne se fait pas dans les médias, mais on a vu...
Non, vous les avez vues hier et vous les a présentées ?
On a eu hier soir tard un projet de texte. Je le dis, si ce sont des mesures cosmétiques qui, en gros, visent à donner un peu plus à ceux qui subissent la précarité, quelques miettes, et pas à s'ancrer vraiment dans une lutte contre les contrats très courts, ce sera niette. J'insiste sur ce point. C'est le patronat qui est en face de ses responsabilités aujourd'hui. Il sait qu'il aura le bonus-malus annoncé par le président de la République, réannoncé par la ministre du Travail.
C'est un système de pénalité financière pour les entreprises qui abusent de ces contrats courts.
C'est la possibilité. Nous, on a fait une autre proposition qui était la cotisation dégressive à l'assurance chômage payée par les employeurs. C'est-à-dire de très haute le premier mois du contrat, la première heure, et moins haute ensuite.
Non, vous disiez, le patronat sait qu'il est responsable.
Oui, mais oui, c'est lui qui porte cette responsabilité. Bien sûr, il a dit qu'il suspendait la négociation, il est revenu. Maintenant, il faut qu'il mette sur la table des mesures efficaces contre la précarité.
Oui, alors, parlons-en quand même, parce qu'il met sur la table, vous savez en gros ce qu'il met sur la table. Notamment, il est d'accord pour revoir les règles des CDD d'usage. Et CDD d'usage, c'est vraiment le CDD le moins avantageux pour le salarié. Il n'y a même pas de prime de précarité quand il s'achève. Donc là, il est prêt à le revoir et surtout à le limiter à certains secteurs, parce qu'il prolifère partout, alors que normalement, ce n'est pas le cas.
Non, mais il est prêt, c'est assez générique ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le MEDEF, aujourd'hui, ce qu'il met sur la table, en tout cas, ce qu'il y a dans le texte, mais ça mériterait de travailler, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est simplement de dire, bon, ben, puisque vous subissez la précarité, c'est une logique, vous allez avoir une prime de précarité, donc qui n'est pas chiffrée, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est comment on met fin à la précarité. Comment on met fin qu'un certain nombre de secteurs se structurent autour de contrats courts, au lieu de réfléchir à l'organisation
vous
du travail,
pas...
à l'embauche de contrats de salariés en contrats plus longs, en création de CDI. C'est ça la question.
Vous voulez pas qu'ils proposent des mesures individuelles, donc par exemple prime de précarité, vous voulez un système qui sécurise le salarié, donc quelque chose de beaucoup plus ambitieux.
Dans certains
secteurs, le compte n'y est pas pour l'instant.
Dans certains secteurs, je vais vous prendre le médico-social, le maintien à domicile. Les employeurs sont structurent leur activité autour du recours en CDD en permanence. Ce n'est pas un secteur délocalisable. Ce n'est pas un secteur qui est soumis à la concurrence internationale. On pourrait réorganiser le travail de telle sorte que ce soit des CDI qui soient proposés. Ce n'est pas ce qui est fait. Donc nous, ce qu'on veut, ce n'est pas qu'on dise aux gens, bah, tant pis, on se débrouille, on fait des CDD, on vous file une prime dont on n'a pas capable de chiffrer. On dit, il faut des CDI, il faut des contrats plus longs pour ces personnes.
Et donc,
il faut responsabiliser les employeurs à travers un système de bonus-malus s'ils ne sont pas capables d'inventer quelque chose de plus intelligent.
Mais ce n'est pas un peu un jeu de dupes, Laurent Berger, que vous l'appeliez bonus-malus ou différemment, vous souhaitez que les contrats courts soient taxés et que Non, mais parce que le MEDEF, il dit non. Donc, quand je dis que c'est un jeu de dupes, c'est que vous allez vous revoir après-midi et que là-dessus, vous ne pourrez pas vous entendre.
C'est un jeu de dupes. Le MEDEF, il a dit tout très clairement, et le patronat, que le MEDEF, il a dit on suspend la négociation. Dont acte, sans nous en parler précédemment.
Mauvaise manière qui vous a été faite.
Oui, mais ce n'est pas très important, ça. Et ensuite, il la rouvre. Bah, il faut qu'il la rouvre avec des propositions. La toile de fond, elle est toujours la même. C'est le gouvernement qui dit on mettra en place un bonus-malus. Donc nous, on dit on a une proposition, c'est la cotisation dégressive à l'assurance chômage, étudiez-la. Ils disent non, on ne veut pas l'étudier, on va proposer un autre système. Le système qu'ils proposent, ce n'est pas un système satisfaisant, en tout cas à l'heure qu'il est. On va voir cet après-midi s'ils évoluent. Si ce n'est pas le cas, bah, il faudra qu'on assume le fait qu'il n'y a pas d'accord possible avec le patronat.
Et que donc l'État reprendra la main.
Ça, vous savez, le match, il a lieu cet après-midi.
S'il
n'y a pas d'accord, ce sera à l'État d'assumer sa responsabilité, très clairement.
Le match n'est pas joué. Mais
non, le match n'est pas joué, puisque la négociation a lieu cet après-midi.
Que vous soyez très optimiste.
Oui, je ne suis pas optimiste parce que je crois qu'un certain nombre de branches professionnelles aujourd'hui font une espèce de pression sur le patronat, sur l'ensemble des acteurs, pour dire mais ça serait catastrophique pour notre secteur professionnel. On peut faire des choses intelligentes. Moi, je ne vous dis pas que les CDD doivent disparaître. Je dis que l'explosion ces dernières années du nombre de contrats de quelques heures, de quelques jours, voire du moins d'une journée, c'est pas acceptable. Et on peut faire autrement dans l'organisation du travail. C'est ça qu'on veut poser comme principe. Et ça peut se faire que si on responsabilise les employeurs. Et donc, on les taxe. Je sais pas si... En tout cas, on les responsabilise. Nous, le système qu'on propose, c'est pas le coût du travail soit augmenté, entre guillemets. On souhaite que ce soit plus fort pour ceux qui utilisent des contrats courts et moins fort pour ceux qui utilisent des CDI.
Alors, on va parler de la fonction publique. Hier, ou plutôt aujourd'hui, d'ailleurs. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique vous propose son texte, sa réforme. Hier, il l'a proposé. Pardon, ça doit passer en Conseil des ministres le 27 mars. Vous êtes prêt à négocier? Vous dites au gouvernement, stop, on met les pouces, on attend la fin du grand débat. On ne peut pas discuter de l'avenir du statut du fonctionnaire maintenant en pleine crise.
Nous, on a dit stop, il faut donner du temps. Et du temps, notamment à la concertation.
Le 27 mars, en Conseil des ministres, c'est pas du temps. C'est pas assez de temps.
Non, c'est pas assez de temps parce que ça veut dire qu'il faut que le 6 mars, le texte soit prêt. Et là, c'est la prochaine réunion avec les organisations syndicales. Hier, la CFDT, elle est allée jusqu'au bout de la réunion avec M. Dussopt.
Oui, parce qu'ils ont tous quitté la table, sauf vous et l'UNSA.
Voilà, on est allé jusqu'au bout parce qu'on a des propositions à faire, parce qu'on a des contre-propositions à faire. On nous dit, en face, on veut bien les écouter. Mais on n'a pas l'espace-temps pour le faire. Parce que vous savez, quand un texte passe au Conseil des ministres, avant, il est soumis au Conseil d'État, etc.
Donc vous dites, attendez, pour que
nous,
les auditeurs comprennent...
Nous, on a signé, on demande à ce qu'il y ait un report de la date de passage
mais
en Conseil
quoi,
des ministres.
Mais je vois quoi le gouvernement, alors
y compris parce qu'il faut attendre, effectivement, un certain nombre de discussions qui ont lieu dans le cadre du grand débat. On demande aux citoyens dans le grand débat quelle place les services publics ils souhaitent, quel rôle les missions de services publics qu'ils souhaitent voir renforcées, etc. On ne peut pas passer décemment ce texte fin mars avant qu'on en ait discuté vraiment. Et c'est ça qu'on demande. C'est quand même pas grand-chose. On demande juste de repousser pour qu'on ait le temps de discuter. On n'a pas pour l'instant de texte. Soyons clairs, on n'a pas de texte.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on se prononce sur un texte le 6 mars.
Alors qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à quoi le gouvernement ? À passer en force ?
Non mais il aurait tort. Vous connaissez la situation dans les hôpitaux. Vous connaissez la situation dans un certain nombre de services de l'État. On n'a aucun intérêt à aller à l'affrontement. Discutons. Et si pour cela il y a un besoin d'un peu de temps, prenons-le.
Donc c'est clair, vous n'acceptez pas le calendrier que vous propose le gouvernement
non,
sur la réforme de la fonction publique.
On l'a dit très clairement et je l'ai dit très clairement au Premier ministre.
Et donc vous dites, s'il y a un texte qui est proposé malgré tout le 27 mars sur la réforme, eh bien vous n'en serez pas et vous serez là dans l'opposition.
De toute façon, un texte de loi, on n'en est pas forcément. Mais en tout cas, les conditions ne seront pas réunies pour que ça se passe correctement.
Pour une discussion sereine sur ce sujet. Merci beaucoup Laurent Berger d'avoir été ce matin sur RTL.
Le double appel à la négociation de Laurent Berger. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et dans quelques instants, Cyprien Sini.